La Poste est dans le sillage exact de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la politique Sarkozy, qui fait des moulinets, mais qui propose plus de la même chose. Donc voilà, c'est pour ainsi dire, nous avons vu le train états-unien passer dans le précipice à toute vapeur. Allons-y nous-mêmes. Bon. Et la Poste, c'est le comble de l'incohérence, c'est-à-dire c'est la cerise sur le gâteau. Au moment où la finance libéralisée et concurrentielle est en train de partir en morceaux et montre l'ampleur des désastres dont elle est capable, et je dirais même davantage, montre l'ampleur des désastres qu'elle est nécessairement vouée à produire. À ce moment-là, que faisons-nous ? Nous privatisons la Poste. Donc on la met dans la main des actionnaires privés. Et les actionnaires privés vont exiger la rentabilité des capitaux propres, comme ils font dans toutes les entreprises qui sont sous leur coupe. Et où est-ce qu'on trouve la rentabilité susceptible de satisfaire des actionnaires privés ? Pas dans la distribution du courrier, vous vous en doutez, mais dans la vente des produits financiers. Alors voilà, on va livrer la Poste à la concurrence financière la plus débridée. Donc, on va mettre les comptes chèques postaux, les livrets A, on va les exposer au risque d'une déconfiture financière, dont je dis qu'elle ne manquera pas de se produire à structure financière invariante, hein, bien sûr. Car là, on peut compter sur les dirigeants de la Poste privatisée qui vont être frétillants comme des gardons. Maintenant, ils sont mondialisés. Ils vont pouvoir aller recevoir les embruns du grand marché et de l'océan concurrentiel et financier. Et puis alors, surtout, ils sont assis sur un tas d'or. Parce que la Poste, c'est les comptes chèques postaux, c'est les livrets A, et il y en a pour un paquet. Et donc, ils ont une force de frappe financière qui est tout à fait considérable. Je dis que cette Poste-là fera des conneries, c'est écrit. Elle en a déjà fait, hein. Elle en a déjà fait il y a quelques années, au moment où elle avait proposé des produits d'épargne-action à rendement garanti. Puis on s'était aperçu, en lisant les contrats qui étaient écrits en toute petite ligne, comme d'habitude, que finalement, c'était pas si garanti que ça. Moyennant quoi, les épargnants qui avaient confié leurs avoirs à la Poste en espérant avoir du 5 ou du 10% garanti, se sont retrouvés en ayant perdu leur culotte. Bon, donc cette Poste-là, va suivre le chemin de Washington Mutual, la caisse d'épargne américaine, qui est en train de faire faillite actuellement, qui doit être reprise en urgence. Elle va suivre le chemin de ce qu'on appelle les money market funds, qui sont en gros des SICAVs monétaires aux États-Unis, et qui sont en train eux aussi de boire la tasse et de faire face à des retraits massifs. Je veux dire, elles vont suivre le chemin des fonds de pension états-uniens, qui là aussi sont en train de manger chaud. Ça, c'est absolument extraordinaire. Jacques Attali, l'auteur du rapport. Jacques Attali se propage sur les plateaux télévisés pour nous annoncer le tsunami, la crise de 29, la fin des haricots et tout ce qui s'ensuit. Bon, il n'a pas complètement tort. Mais Jacques Attali a oublié ce qu'écrivait Attali Jacques il y a à peine un an, dans le fameux rapport. Il y a cette proposition dont l'objectif est, je cite, « de modifier la fiscalité de l'épargne pour favoriser le risque plus que la rente ». Pas mal. Et cet objectif est au service d'une décision 305, j'ai mes sources, qui s'énonce de la manière suivante. Réorienter massivement le régime fiscal de l'assurance vie et du plan d'épargne en action vers l'épargne longue investie en action accouplée avec des fonds de pension. Alors là, je veux dire, soutenir ce genre de choses au moment où toute la finance part en décapilotade, mais moi, franchement, qu'est-ce que ces gars-là ont dans le crâne, quoi ? Je veux dire, c'est ça la question. Alors, il y en a d'autres à propos desquels on ne se pose pas la question. Hein. Je veux dire, là, il y a des éditorialistes, alors là, eux...
On ne citera pas de nom. Hein.
Ah bah si, on va en citer.
Ah tiens.
Ouais, on va en citer. Parce que eux, c'est des fameux. Alors eux, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'ils ont dans le crâne. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, je ne manque pas une occasion de faire de la publicité, c'est Pierre-Antoine Delomey, il officie au Monde. Pierre-Antoine Delomey, qui nous écrit il n'y a pas longtemps un article qui s'appelle « Un Guantanamo des subprimes », je cite « Il faut se réjouir de l'action de l'État ». Il fustige, je cite encore, les quelques talibans du free market. Il faut saluer la conversion de l'ancien empereur des marchés, Paulson, aux vertus de l'intervention publique. C'est le même qu'il y a un an nous écrivait un article qui s'intitulait « La mondialisation heureuse mais heurtée ». Oui, de temps en temps, il y a un petit chaos comme ça, mais à part ça, tout va vraiment très bien. Et alors, à mon avis, le maître à penser de Pierre-Antoine Delomey est Laurent Geoffrin. Parce que c'est de chez Geoffrin que Delomey a dû tirer son truc sur les talibans, ça me plaît beaucoup. Je cite, « Depuis plus d'une décennie, les talibans du divin marché financier ont rejeté tous les avertissements, méprisé tous les contradicteurs et récusé toute tentative de régulation. » Alors attends, mais si moi j'avais écrit un truc du genre « Les talibans du divin marché », mais pourquoi j'aurais passé pour un fou furieux enfermé, je veux dire, un archaïque fascisant ou je ne sais pas quoi. Alors là, Très honnêtement, les bras vous tombent, quoi, hein, je veux dire. Mais moi, quand je lis, franchement, quand je lis la pose de ces irréparables crétins, il y a une citation qui me revient irrésistiblement en mémoire, je peux pas m'empêcher de la dire.